Décryptage, Marie Casadebé.
En France, la voiture autonome sans conducteur va prendre la route dès 2019 dans le cadre d'une expérimentation d'abord, mais le pays qui a précisé lundi son calendrier ne compte pas rater le coche, celui d'une révolution technologique, industrielle, mais aussi sociale. La Chine et les États-Unis ont une longueur d'avance et dans cette course mondiale, toutes les grandes puissances veulent leur part du gâteau. Mais ce n'est pas demain que nos véhicules pourront se passer de nous. Au-delà de la technologie, ce sont toutes les conditions à son utilisation qu'il faut prévoir, un chantier gigantesque. Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Bertrand Duflo.
Bonsoir.
Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes expert en mesure optique, fin connaisseur du domaine des véhicules autonomes et de la mobilité. Et bonsoir Bruno Faure.
Bonsoir Marie, bonsoir à tous.
Journaliste au service économie de RFI et vous suivez de près ce dossier. Alors avant de soulever avec vous deux toutes les questions que pose cette révolution technologique, une question toute simple ou peut-être pas, je ne sais pas, Bertrand Duflo, à quoi ça sert un véhicule qui peut se passer de conducteur pour son utilisateur d'abord ?
Pour moi, l'avantage le plus important, c'est le fait de pouvoir se déplacer sans avoir à conduire dans son véhicule quand on se déplace. Ce qui fait que le temps qu'on aura, qui aujourd'hui est occupé par la conduite, deviendra disponible pour faire d'autres activités, soit se reposer, travailler, consulter ses mails sur son téléphone, enfin toute une variété d'activités qui sont appelées à se multiplier, puisque en fait, aujourd'hui, on pense à des voitures dans lesquelles, comme on doit conduire, on ne peut que conduire ou être un passager passif. Demain, on aura la possibilité d'avoir un éventail de véhicules beaucoup plus variés qui permettront soit d'être à nouveau passif, soit d'avoir d'autres activités de manière très variée.
Gagner du temps, donc gagner de l'argent. On peut imaginer faire une petite sieste, continuer sa nuit sur le trajet entre chez nous, notre travail. Ça, c'est finalement envisageable.
Complètement.
On va dire à moyen terme, hein, dans un premier temps, le véhicule autonome servira au conducteur à l'assister dans la conduite. Il faudra continuer à être attentif, mais effectivement, à moyen terme, on pourra vraiment quitter les yeux de la route.
On va poser évidemment la question du délai, mais là, si on imagine franchement une voiture dont on n'a pas besoin de s'occuper, qui nous conduit toute seule, quels sont les autres gains ? Alors, on comprend qu'on peut faire autre chose que la conduire. Est-ce que, parce que l'homme n'est plus à la manœuvre, est-ce que ça va réduire l'accidentologie ?
D'après toutes les études disponibles, effectivement, on s'attend à une forte baisse de l'accidentologie. Donc c'est souvent l'avantage qui est mis en avant par les pouvoirs publics. C'est ça, c'est réduire de... Enfin, aujourd'hui, peut-être dans 9 cas sur 10, c'est la vigilance du conducteur ou ses choix qui sont à l'origine ou une des causes de l'accident. Si on a un ordinateur qui pilote la voiture, on pourra éviter une grande partie de ces accidents, pas tous, mais une bonne partie.
Oui, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus d'un million de personnes meurent sur les routes chaque année. Bruno Faure.
Il y a certains spécialistes qui comparent en fait la voiture autonome à un banc de poisson. C'est-à-dire qu'un banc de poisson, dès qu'il y a un poisson qui change de direction, tous les autres font pareil. On peut imaginer un peu la même chose avec les véhicules autonomes à l'avenir dans le trafic routier, avec dès qu'une voiture devant vous va freiner, votre voiture va freiner exactement de la même vitesse.
Alors, est-ce que cette voiture, Bertrand Duflo, est une voiture écologique ? Parce qu'évidemment, toute la filière automobile cherche à ce qu'elle devienne de plus en plus verte. Est-ce que finalement, la voiture autonome sans conducteur va dans ce sens ?
La question n'est pas... Enfin, la réponse n'est pas simple à cette question. D'une part... Les voitures autonomes, elles pourront être exploitées sous forme de flotte, de taxis autonomes. Et quand il n'y a pas de conducteur, il faut que la voiture n'ait pas de panne. Donc pour qu'elle n'ait pas de panne, le plus simple aujourd'hui, c'est d'utiliser une voiture électrique. Ce qui fait que le passage à la voiture autonome, ça peut conduire à passer massivement à des véhicules électriques. Donc les véhicules électriques, c'est généralement plus vert, meilleur pour l'environnement que les voitures thermiques.
Les grands défenseurs, Bruno Faure, de la voiture autonome parlent aussi d'une réduction des embouteillages.
Oui, puisqu'a priori, on aura une circulation plus fluide, étant donné que les voitures circuleront a priori à la même vitesse les unes que les autres, on aura donc moins ces phénomènes d'accordéon. Vous savez qu'on a sur les autoroutes ou même dans les villes, dès que un feu passe au vert, une première voiture accélère, mais il y a toujours un temps de latence avec la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, et c'est ça qui crée finalement les bouchons. Si tout le monde avance dans le même train, on aura moins de bouchons.
Moins de soucis de parking aussi, ça c'est important.
Alors ça, on peut imaginer ça, c'est une autre ville hein, dans l'avenir, mais on peut imaginer qu'une voiture autonome vous emmène quelque part, si vous allez au stade ou chez votre coiffeur, et puis peut-être qu'elle rentrera chez vous, sans vous, et qu'elle reviendra se garer chez vous. Ou alors peut-être qu'elle embarquera quelqu'un d'autre pour l'emmener autre part, si cette voiture est partagée.
Bertrand Duflo, quand on parlait de l'intérêt pour l'utilisateur, est-ce qu'il n'est pas tout particulier pour les personnes dépendantes qui ont du mal justement à se déplacer et qui aujourd'hui ne peuvent pas conduire une voiture classique ?
Si, bien sûr. Effectivement, une personne qui... Il y a tout un ensemble de publics qui aujourd'hui ne peuvent pas avoir de voiture pour différentes raisons, soit leur état de santé, leur âge, aussi des adolescents, des enfants. Tous ces publics qui aujourd'hui peuvent pas se déplacer en voiture d'eux-mêmes, on est forcé de les accompagner, ils pourront beaucoup plus facilement se déplacer quand des offres de transport en véhicule autonome seront disponibles.
Alors on va voir qu'on en est encore qu'à l'étape de l'expérimentation en France ou ailleurs, mais Bruno Faure, vous disiez voilà, il y aura bien d'autres étapes avant qu'on puisse laisser une voiture rouler sans conducteur. Quel délai ? Dans quel délai ça se joue à quoi ? Quelques années, quelques dizaines d'années, le jour où on n'aura plus besoin de nous pour voir nos voitures conduire.
Plus besoin de nous totalement, c'est pas dans les 2 ou 3 prochaines années. Là, on est dans des expérimentations qui vont être progressives dans certaines situations. Hein, la voiture ne sera peut-être pas autonome dans toutes les situations tout de suite, mais après, Monsieur Duflo en dira plus. Mais dans 5, 10, 15 ans, on peut imaginer que sur des autoroutes ou sur certaines portions de ville, on puisse avoir une circulation totalement avec des voitures autonomes.
Ça va se jouer dans quel délai, Bertrand Duflo ?
Pour moi, ça peut se jouer quasiment dès 2018 dans certaines régions du monde. C'est-à-dire la problématique, ce n'est pas savoir quand ça va démarrer, mais où ça va démarrer, où les conditions le permettront. Du point de vue de la sécurité, en fait, Google aux États-Unis a annoncé qu'ils vont commencer dès 2018 à exploiter un service de taxi autonome à Phoenix, en Arizona.
Donc ce sera forcément dans certaines conditions très précises, c'est-à-dire lesquelles ? Pourquoi, par exemple, Phoenix, en Arizona ?
Oui, le choix de Phoenix, c'est parce que c'est une région où il pleut très peu. Et il y a un plan de ville avec des avenues larges et en quadrillage.
Perpendiculaires, oui.
Voilà, des croisements perpendiculaires. Donc c'est des conditions beaucoup plus simples à maîtriser que des conditions complexes comme la place de l'Étoile un soir de pluie ou une route de montagne.
On comprend en tout cas la première étape. Alors certains Français même ont déjà eu l'occasion de tester grandeur nature cette nouvelle technologie à petite échelle évidemment, hein, celui notamment des navettes. Il y en a une qui mène en ce moment du siège de l'aéroport de Paris à Roissy, à la gare Roissy-Pôle, ça fait 600 mètres. Hein. Et puis l'année dernière, une autre navette conduisait les usagers entre 2 gares parisiennes, soit un peu plus d'un kilomètre.
Ah, on dirait qu'il va partir.
C'est ça. Le gong de départ nous signifie que le véhicule est 100% pris en charge. Ça veut dire que donc on a un GPS et des capteurs sur le toit. On a une cartographie faite informatiquement au préalable qui nous a dessiné les 2 courbes que nous allons prendre. Vous voyez ? Voilà, on prend la courbe, on va le laisser passer et nous on passe sans freiner ou sans s'arrêter. Pour la sécurité, on a 4 capteurs laser sur les 4 côtés du véhicule qui déterminent n'importe quel obstacle à la seconde près qui fera que le véhicule s'arrête automatiquement. C'est à l'opérateur de le relancer après.
Un exemple donc de véhicule autonome sans chauffeur qui circule sur 1 kilomètre. Bertrand Duflo, on entend parler de capteurs dans cet extrait. Qu'est-ce qu'il faut munir de capteurs ? Ce sont les véhicules ou ce sont les routes ? Ou les deux ?
C'est au moins le véhicule, ça c'est clair. Après, sur le besoin d'équiper les routes, il y a certaines discussions. Il y a certains développeurs de véhicules autonomes qui prévoient de mettre tout sur le véhicule et d'autres qui prévoient aussi un équipement des routes et des carrefours. Je pense que l'équipement des carrefours permet de gagner, c'est un bonus, d'augmenter la sécurité, donc de démarrer plus vite dans certaines zones, alors que sinon il faudrait attendre que davantage de progrès soit fait sur les véhicules pour pouvoir démarrer.
Et ce sont surtout les voitures qui vont se parler entre elles, hein, les capteurs des uns et des autres qui vont indiquer à l'autre je suis à telle distance d'un danger potentiel, là il y a un vélo qui est en train de passer, une voiture pourra l'indiquer éventuellement, Bertrand Dufault me confirmera peut-être, pourra indiquer à une autre voiture un danger potentiel.
Oui, effectivement, enfin, ça c'est tout un pan de développement qui est la communication véhicule-véhicule, mais ça reste plutôt un bonus, enfin, qui permet d'améliorer la sécurité, mais qui n'est pas fondamental pour ce qui est du phénomène véhicule autonome qui peut exister indépendamment de cet équipement et de cette communication véhicule-véhicule.
Et qu'est-ce qui vous paraît fondamental ? Parce qu'on entend aussi que le chemin de la navette a été cartographié très précisément, ça veut dire que le GPS du véhicule autonome n'aura pas droit à l'erreur.
Il n'a pas du tout droit à l'erreur. On entend bien avoir une sécurité maximale. Ce qui se passe sur ces navettes, ça va être une des premières formes de déploiement de véhicules autonomes et qui a déjà lieu. En fait, on a deux constructeurs en France, Navia et EasyMile, qui sont très en pointe dans le domaine des navettes. Et qui sont prêts à mettre, et qui ont déjà un certain nombre de navettes dans de nombreuses villes du monde, aujourd'hui en expérimentation, mais qui peuvent passer très rapidement dans une exploitation commerciale.
Bruno Faure, si on se projette un peu, la question c'est aussi le comportement de cette voiture autonome dans le trafic. Elle ne sera pas toujours confrontée à des voitures qui lui ressemblent, elle peut être confrontée à des piétons, à des véhicules classiques. Ça pose beaucoup de questions
avec,
encore.
Avec une phase de transition où on aura à la fois des voitures autonomes et des voitures classiques, donc avec des réactions potentiellement toujours imprévisibles de la part des conducteurs qui seront dans des voitures classiques.
Quelques exemples de situations qu'on a encore du mal à imaginer, des situations d'urgence par exemple.
Alors par exemple, on a une voiture qui roule sur une route et puis il y a un cycliste qui est en train de passer de façon totalement imprévue et inopinée. Que va faire le logiciel ? Est-ce que le logiciel va éviter le cycliste, quitte à faire prendre un risque au conducteur du véhicule autonome lui-même ? Ou alors est-ce qu'il va sauver la vie du conducteur et potentiellement menacer le cycliste ? Ça, c'est une vraie question. La question de la responsabilité aussi de ceux qui auront les autorisations d'expérimentation.
Voilà, et c'est ce que j'allais dire, Bruno Faure. C'est la grande question, elle est presque philosophique finalement, Bertrand Duflo, avec ce nouveau type de véhicule, c'est celui de la responsabilité. Est-ce que le conducteur va rester responsable ? Et si ce n'est pas lui, qui est-ce ? Est-ce que c'est la grande question soulevée aussi par ces voitures autonomes ?
Pour moi, c'est pas une question. En fait, j'anticipe le véhicule complètement autonome assez rapidement. Donc il n'y a plus de conducteur. Donc il ne s'agit plus de lui imposer une quelconque responsabilité. Il n'y en a plus. Donc c'est plutôt la société qui met en circulation et qui opère le véhicule qui sera responsable.
Et ça, il faudra que ce soit évidemment inscrit dans une loi, la loi d'un pays, même de plusieurs pays, puisqu'on peut imaginer que ce véhicule va circuler à l'étranger également.
Oui, bien sûr, mais en fait, ça, on retrouve tout un corps de lois qui sont la responsabilité du fait du produit qui existe déjà et auquel on peut se rattacher.
Mais moi, j'ai une question. Si on a un accident pendant cette phase de transition entre un véhicule autonome et un véhicule classique, est-ce qu'on va dresser un constat comme aujourd'hui où il y a deux conducteurs qui dressent un constat potentiellement contradictoire ? Comment est-ce que ça va se passer ?
Je pense qu'il y aura les mêmes constats qu'aujourd'hui. Enfin, après, il y a aussi le cas le plus difficile, c'est en fait le robot mobile, c'est-à-dire un des deux véhicules est autonome et il n'y a personne dedans. Donc là, je ne sais pas.
On enverra un mail au fabricant pour se plaindre.
On comprend en tout cas que toutes les questions n'ont pas été encore résolues pour que ce soit vraiment le monde de demain.
Décryptage. Marie Casadebé.
La suite de notre décryptage sur l'avenir de la voiture autonome. Les pays qui en ont les moyens doivent s'y préparer. Prenons le cas de la France, puisque lundi, l'ex-secrétaire d'État au transport, Anne-Marie Drac, a rendu public son rapport, ses orientations stratégiques. Il s'agit de mettre la France sur la bonne voie avant l'arrivée de ces véhicules sur les routes entre 2020 et 2022.
ne s'agit pas d'avoir demain matin des véhicules sans conducteur dans toutes les situations. C'est quelque chose qui, pour nous, en France, sera progressif, fondé sur la sécurité, sur l'idée d'utilité.
Bruno Faure, ça va donc se faire par étapes là, en France. Ça, c'est écrit et en tout cas, c'est recommandé par ce rapport d'Anne-Marie Drac.
Oui, les autorités qui essayent de rassurer, hein, parce qu'elles sentent bien que les automobilistes français ne sont pas vraiment prêts à cette idée. Il y a à peu près deux tiers ou même un peu plus qui ne sont pas prêts aujourd'hui à lâcher le volant. L'acceptabilité, c'est une vraie question.
Alors, ça va se passer par quelle étape? On parle d'abord de phase de test. Bertrand Duflot, peut-être de voitures semi-autonomes. Quelles sont les étapes finalement avant qu'on ait des voitures autonomes, sans conducteur, dans les rues de Paris par exemple, ou en tout cas en France ?
Les deux principales étapes qui sont proposées dans le rapport de Madame Idrac que vous avez cité, c'est d'avoir des véhicules autonomes hautement automatisés à l'échéance 2020, c'est-à-dire ce sera le cadre juridique qui serait prêt à cette date. Ça ne veut pas dire qu'ils circuleront dans les rues, mais au moins le cadre juridique sera prêt pour des véhicules hautement automatisés. Mais c'est des véhicules sur lesquels il doit toujours y avoir un conducteur, simplement. La voiture peut se conduire toute seule, mais il a quelques secondes pour réagir. Mais il doit toujours y avoir un conducteur. Et en revanche, la deuxième échéance, pour 2022, c'est automatisation niveau 4, où éventuellement le véhicule peut se conduire tout seul, sans intervention du conducteur, dans un certain domaine de conduite pour lequel il est homologué.
Vous parlez du cadre juridique, ça montre à quel point la mise en circulation d'une voiture autonome dépasse les questions d'ingénierie. Et là, un gouvernement a un rôle important à jouer, même indispensable, pour l'application d'une technologie comme celle-ci, Bertrand Duflot.
C'est un marché énorme hein, qui va être concerné. C'est-à-dire ça concerne à la fois toute la construction automobile, ça concerne tout le transport routier, avec des impacts sur le transport en train. Donc c'est un marché colossal qui est concerné. Et bien sûr, il y aura des conséquences en termes d'emploi pour les pays, pour les filières automobiles, la filière transport. Donc l'État ne peut pas être...
Avec des enjeux stratégiques vraiment très importants en termes de sécurité, de cybersécurité, il va falloir aussi éviter de se faire pirater hein, sa voiture, que quelqu'un d'autre vous vole les données, puisque ces voitures vont être des mines d'informations potentielles.
Mais les conducteurs, bientôt, peut-être inutiles ou presque, sont-ils prêts? Écoutez, Pierre Chasseret, il est délégué général de l'association française 40 millions d'automobilistes.
Est-ce qu'on est prêt à confier sa vie à une machine, à un programme? Moi, je ne sais pas quel programme sera à l'intérieur de ce véhicule autonome, quelle faille il peut y avoir. On regarde tout ça de loin en tant qu'automobiliste, mais je n'ai pas l'impression qu'on a envie vraiment d'être dedans. On n'est pas encore sur une génération à venir qui est prête à lâcher le volant. On le voit bien, Google, qui remet à l'intérieur de sa Google Car un volant, un pédalier. Le plaisir de conduite existe encore. Je ne suis pas persuadé que le véhicule autonome aujourd'hui vienne remplacer ce plaisir de conduite.
Bertrand Duflot, Bruno Faure le disait, 2 Français sur 3 ne font pas assez confiance à la nouvelle technologie pour se laisser séduire, contrairement aux Chinois qui sont 83% à être enthousiastes. Est-ce que c'est un axe important de la conquête de cette révolution technologique, celle de l'usager?
Pour moi, c'est forcément un axe important pour des raisons industrielles, c'est-à-dire que si la technologie se répand beaucoup plus vite aux États-Unis ou en Chine qu'elle ne le fait en Europe, ça va être un handicap colossal pour les industriels européens. Donc pour moi, il est impératif que la technologie soit développée en Europe et soit déployée en Europe avec un calendrier similaire à ce qui va se faire aux États-Unis et peut-être bientôt en Chine également.
Les expérimentations ne fonctionneront effectivement que si elles se font à grande échelle, c'est-à-dire faire quelques tests par-ci par-là. Malheureusement, ça sert pas à grand-chose. On pourra vraiment tirer des conclusions que si on arrive à, sur toute une portion de ville, à tester ces véhicules autonomes.
Merci beaucoup, messieurs. Bertrand Duflot, expert en mesures optiques. Bruno Faure, journaliste au service économie de RFI. Merci à toute l'équipe de décryptage. Et l'honneur crénique, Françoise Delignon, Déborah Lepage et Fabrice Viollet.